Alors, imagine un peu la scène. Un quartier entier vient d'être complètement, mais vraiment intégralement pulvérisé par une tornade.
Ah oui, le genre de paysage post-apocalyptique où il ne reste plus rien.
C'est ça. Le paysage, ce n'est plus qu'un amas de ruines fumantes, des poutres brisées partout, et il ne reste qu'une seule et unique maison debout au milieu de ce chaos absolu.
Et j'imagine que les survivants à l'intérieur sont terrifiés, non?
Eh bien, figure-toi que non. À l'intérieur de cette maison, les survivants ont décidé d'organiser une fête gigantesque.
Attends, une fête?
Au milieu des décombres.
Ouais.
Avec des confettis, des rires, la musique poussée au maximum pour couvrir le bruit du vent. Psychologiquement parlant, c'est complètement délirant, n'est-ce pas?
Bah, c'est le déni poussé à son paroxysme, en fait. C'est une façon de conjurer la terreur par une frénésie qui est totalement artificielle. On refuse de regarder la mort en face, alors on danse au bord du gouffre, quoi.
Exactement. Eh bien, aussi dingue que ça paraisse, c'est exactement la scène stupéfiante qui s'est déroulée à Jérusalem en l'an 701 avant notre ère.
La fameuse année du siège.
C'est ça. Et c'est le point de départ de notre immersion d'aujourd'hui. On plonge en profondeur dans les notes, des notes vraiment exceptionnelles d'ailleurs, de la 11e session du docteur John Oswalt qui se penche sur les chapitres 22 et 23 du livre d'Ésaïe.
Des chapitres qui sont franchement d'une intensité redoutable.
C'est clair. Et notre mission dans cette exploration, c'est de décortiquer un concept absolu et impitoyable. La question de la confiance. En gros, pourquoi l'humanité s'obstine-t-elle à s'appuyer sur sa propre gloire, son génie politique ou son commerce, alors que face au grand cataclysme, tout ça finit par s'additionner à zéro?
C'est un dossier fascinant parce que l'auteur Ésaïe crée un véritable électrochoc ici. Tu vois, dans les chapitres précédents, il a passé un temps fou à démonter les puissances étrangères.
Ouais, il tape sur tout le monde autour.
Voilà, il avertit son peuple en disant « Ne faites pas d'alliance avec Babylone, oubliez Moab et ne vous fiez surtout pas à la cavalerie égyptienne ». C'est un discours géopolitique assez classique et pour ses auditeurs, c'est confortable à entendre.
Bah oui, on pointe les ennemis du doigt, on se rassure entre soi.
Exactement. Mais soudain, au chapitre 22, la caméra pivote brutalement. Le projecteur se braque directement sur sa propre nation, Juda.
Le choc devait être monumental pour eux. Il leur assène en substance. Votre nation n'a rien de spécial pour vous sauver. Ne vous faites pas confiance à vous-même.
C'est une claque monumentale.
Et d'ailleurs, il introduit cette critique féroce par une expression qui, franchement, qui m'a fait bondir en lisant les sources. Il parle de l'oracle sur la vallée de la vision. C'est un oxymore absolu.
Ah bah totalement. Hein? Par définition, si on veut avoir une vision claire, on monte sur une montagne pour voir l'horizon. Une vallée, c'est littéralement le pire endroit pour voir loin.
Ouais, t'as la vue bloquée par le premier relief venu. C'est du sarcasme littéraire de très très haut niveau.
La nation de Juda se vante d'être lucide, tu vois, d'être le peuple élu, de comprendre la géopolitique.
Et lui, il leur dit qu'ils sont aveugles.
C'est ça. Il leur dit qu'ils souffrent d'une vision en tunnel incurable. Ils n'arrivent pas à voir la forêt parce qu'ils ont le nez écrasé contre l'écorce de l'arbre. Et pour comprendre cette cécité, il faut vraiment qu'on se remette dans le contexte de terreur de l'an 701.
L'Empire assyrien.
Ouais, dirigé par Sennachérib. Et ça, ce n'est pas juste une armée. C'est une machine de guerre psychologique, conçue pour broyer les peuples. Ils empalaient leurs ennemis, ils écorchaient vifs les rebelles.
Et les chiffres de cette campagne donnent le vertige. Dans les sources, on voit que les Assyriens ont systématiquement rasé et réduit en cendres 46 villes fortifiées de Juda. C'est de l'annihilation pure.
Il ne restait quasiment rien.
Juste deux bastions. La gigantesque forteresse de Lachish, au sud, et la capitale, Jérusalem. Et on apprend que Lachish finit par tomber. La situation de Jérusalem est donc, militairement parlant, désespérée. La fin est inéluctable.
Et c'est là qu'intervient le coup de théâtre. L'armée assyrienne lève le camp et disparaît du jour au lendemain.
Mais comment c'est possible?
Eh bien, les sources historiques et bibliques proposent deux explications. Soit Sennachérib a appris qu'une immense armée égyptienne approchait et il a voulu éviter d'être pris en tenaille.
Logique.
Soit, selon le texte sacré, un événement surnaturel a foudroyé 185 000 soldats assyriens en une seule nuit. Quoi qu'il en soit, au petit matin, l'étau se desserre miraculeusement.
D'où notre métaphore de la tornade.
Ouais.
La ville entière monte sur les toits plats pour faire la fête. L'exultation est totale.
Mais Ésaïe regarde cette scène avec horreur.
Bah oui, le pays entier est un charnier à ciel ouvert. L'économie est pulvérisée, des dizaines de milliers de personnes sont mortes ou déportées. Et les gens de Jérusalem hurlent de joie juste parce qu'ils ont survécu à la nuit. C'est l'essence même d'une victoire à la Pyrrhus.
Exactement. Et c'est pour ça qu'Ésaïe refuse catégoriquement d'être consolé ou de participer à la fête. Lui, il se tient métaphoriquement sur cette montagne de la vision. Il sait très bien que ce sauvetage n'est qu'un sursis.
Il voit plus loin que la vallée, lui.
Voilà, sa vision prophétique lui montre que l'attitude de cœur du peuple n'a pas changé. Et que d'ici environ 150 ans, une autre puissance, Babylone, reviendra terminer le travail et rasera définitivement Jérusalem. Il y a une vraie distinction ici entre l'évasion par l'ivresse et la joie véritable.
J'ai beaucoup aimé l'analogie militaire utilisée dans l'analyse de ce passage. L'attitude d'Ésaïe, elle ressemble un peu à celle d'un général d'armée très expérimenté.
Ouais, qui connaît déjà l'issue de la guerre.
C'est ça. Ce général sait avec une certitude absolue que son drapeau est déjà planté sur l'objectif final. Il a cette paix inébranlable. Mais en marchant sur le champ de bataille, au milieu des cadavres de ses propres soldats, il est submergé par la tristesse face au coût effroyable du conflit. Ésaïe a cette assurance en Dieu, mais il pleure sur le gâchis de son époque.
Une assurance qui s'exprime d'ailleurs par l'utilisation d'un titre divin très spécifique dans le texte, l'Éternel des armées, ou le Dieu des hôtes célestes.
Ce n'est pas juste poétique, si j'ai bien compris.
Ah non, pas du tout. Il faut comprendre la cosmologie de l'époque. Pour les peuples environnants, les étoiles, le soleil, tout ça, ce n'étaient pas des cailloux dans l'espace, c'était des divinités redoutables.
Des dieux qui contrôlaient le destin.
C'est ça. En utilisant ce terme précis, Ésaïe lance une provocation théologique. Il affirme en gros, toutes ces entités devant lesquelles les empires tremblent, c'est juste la petite milice privée de notre Créateur. C'est une manière radicale de ridiculiser les idoles.
Ce qui rend la réaction de Jérusalem encore plus frustrante, parce qu'on pourrait légitimement se demander comment ils ont tenu le choc face au siège assyrien avant ce miracle. Et en me plongeant dans la gestion de crise du roi Ézéchias, je dois avouer que je suis resté sans voix. Le type était un génie de l'ingénierie.
Ses travaux préparatoires sont colossaux, c'est vrai. Pour qu'une ville antique résiste à un siège, l'enjeu numéro un, c'est l'eau.
Sans eau, c'est fini en quelques jours.
Exactement. Ézéchias a donc ordonné de creuser un tunnel souterrain massif, taillé directement dans la roche, pour détourner les eaux de la source de Gihon, qui était à l'extérieur, et les amener dans un bassin au cœur de la ville.
Rien que d'y penser. Creuser des deux côtés de la colline avec des outils en bronze pour se rejoindre parfaitement au milieu. C'est hallucinant.
Et ça ne s'arrête pas là. Les Assyriens possédaient des béliers de siège ultra sophistiqués. Pour contrer ça, Ézéchias a pris une décision radicale. Il a exproprié et démoli des maisons à l'intérieur de la ville et il a utilisé tous ses gravats pour combler l'espace entre le double mur d'enceinte de Jérusalem.
Ça agissait comme un amortisseur sismique géant contre les béliers. Mais là, attends une seconde, je dois vraiment jouer l'avocat du diable.
Je t'écoute.
Quand on regarde ça objectivement, Ézéchias sécurise l'eau, il fortifie l'enceinte contre l'artillerie, il prend des décisions difficiles pour sauver des vies civiles. Mais n'est-ce pas exactement la définition d'un leadership exceptionnel? Pourquoi diable Ésaïe lui en tient-il rigueur?
C'est la tension centrale du passage. Et c'est important de clarifier. Le texte ne condamne pas l'aqueduc. Il ne condamne pas le mur ni le pragmatisme.
Donc ce n'est pas un rejet de la technologie ou de l'ingénierie?
Pas du tout. Le problème, c'est l'omission totale du spirituel dans cette équation. Le verset dit très clairement qu'Ézéchias a regardé l'armurerie, la fameuse maison de la forêt, il a compté les maisons à démolir, mais il n'a, je cite, « pas tourné ses regards vers son créateur. Il a misé l'intégralité du salut national sur le béton. »
C'est l'illusion de l'autonomie totale. Il construit une forteresse physique imprenable, mais le centre de commandement spirituel est complètement vide.
Exactement. Et ça souligne une caractéristique vraiment unique des textes bibliques. Il refuse la propagande idéalisée. Dans les annales égyptiennes, les rois sont des demi-dieux infaillibles, mais la Bible est d'une honnêteté brutale. Ézéchias est reconnu comme un super roi, pourtant le texte expose sa faille fatale.
Ça prouve que même les bons leaders ont des failles graves. Et cette faillite au sommet de l'État, elle a un effet de contagion redoutable sur la population. Quand le leadership coupe le contact avec la dimension spirituelle, le peuple plonge dans le cynisme.
C'est exactement ce qu'on voit face à ce danger de mort imminent.
Au lieu de chercher un sens ou de se repentir, la devise dans les rues de Jérusalem devient ce fameux verset 13 « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ».
Le fatalisme hédoniste à l'état pur. On se gave avant l'exécution.
Et ce qui est terrible, c'est que ça déclenche la sentence divine la plus terrifiante du texte. Dieu déclare formellement que cette iniquité ne sera jamais expiée. C'est un point de non-retour. Mais pourquoi une simple attitude de fait fataliste devient-elle impardonnable?
Pour l'expliquer, le docteur Oswalt utilise une analogie qui est vraiment frappante dans ses notes. C'est l'analogie du récepteur radio.
Vas-y, explique-nous ça.
Imagine une pièce remplie par la plus belle des symphonies. Cette musique, elle représente l'amour et la grâce de Dieu. Chaque être humain est équipé, de manière innée, d'un petit récepteur radio intérieur pour capter cette musique.
Notre conscience, en gros.
C'est ça. Le problème de ces habitants, ce n'est pas que Dieu a éteint la musique, c'est qu'ils ont délibérément pris un marteau pour fracasser leur propre récepteur par orgueil.
Ah ouais. Et une fois que le récepteur est brisé par ce refus délibéré, il n'y a plus aucun moyen d'entendre la musique de la repentance. Ce n'est pas Dieu qui refuse de pardonner. C'est l'humain qui se rend incapable d'entendre.
Exactement. Les sources mentionnent l'exemple de l'intellectuel Christopher Dawkins. Jusqu'à son dernier souffle, face à une maladie incurable, il a maintenu une posture de défi absolue. Il a rejeté toute forme de grâce ou de vulnérabilité. C'est la tragédie d'un esprit brillant qui s'aveugle volontairement et détruit son propre récepteur.
Ça donne vraiment à réfléchir sur l'urgence de garder ce qu'on pourrait appeler des comptes courts avec notre propre conscience.
C'est vital. Plus on ignore nos propres fautes, plus on abîme le récepteur.
D'ailleurs, les notes précisent un truc super intéressant. Si quelqu'un s'inquiète sincèrement d'avoir commis un péché impardonnable, c'est en fait la preuve que son récepteur fonctionne encore très bien. C'est l'indifférence cynique qui est mortelle, pas le doute.
Tout à fait. Et pour incarner cette idée d'arrogance, Ésaïe cible deux individus précis au sommet du pouvoir politique, Shebna et Eliakim. Deux visions totalement opposées du succès.
Parlons de ce Shebna. Le type est premier ministre. Jérusalem est sous la menace d'une extermination. Le peuple panique. L'économie s'effondre. Et que fait le chef du gouvernement? Il emploie des artisans pour se faire tailler un tombeau luxurieux et grandiose en hauteur.
L'égocentrisme poussé à l'extrême.
Il veut graver son héritage dans la pierre. C'est complètement lunaire.
C'est l'obsession de laisser une trace matérielle quand on n'a plus aucune perspective spirituelle. Mais Ésaïe vient fracasser cette illusion. Il lui prophétise qu'il ne reposera jamais dans ce magnifique tombeau. À la place, il va mourir en exil, probablement comme otage des Assyriens sous le règne de Manassé. Toute cette ambition finit en poussière.
Shebna est donc destitué et il est remplacé par Eliakim. Et là, on respire un peu. Le texte le décrit comme un serviteur fidèle. Dieu dit qu'il sera comme un père pour Jérusalem. Il est comparé à, je cite, « un piquet solidement planté dans un endroit sûr sur lequel repose toute l'honneur de sa famille ». On se dit « génial, l'intégrité triomphe ».
Sauf que le récit biblique refuse les fins heureuses simplistes.
Ouais, et c'est là que j'ai dû relire le passage. Au verset 25, coup de théâtre monumental. Le texte dit que même ce piquet si solide finira par céder. Il sera arraché, et toute la charge qu'il portait va tomber et se fracasser. Franchement, c'est super décourageant. Si ce gars fait l'œuvre de Dieu fidèlement, pourquoi Dieu ne garantit-il pas la pérennité de son travail?
Parce que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une garantie de succès matériel selon nos critères humains. L'issue appartient à Dieu seul. Nous, on raisonne de manière transactionnelle. Je suis intègre, donc mon entreprise va durer éternellement. Mais aucune institution humaine n'a les épaules assez larges pour porter la sécurité absolue d'une nation. Le poids finit toujours par arracher le mur.
Mais le docteur Oswald partage une anecdote hyper personnelle là-dessus, hein.
Oui, il est très vulnérable dans ses notes. Il raconte qu'après avoir réussi brillamment tout ce qu'il entreprenait dans sa vie, il a accepté de devenir président de l'Asbury College. Il y a mis tout son cœur, sa foi. Et de son propre aveu, ça a été un échec total.
Waouh. C'est une sacrée leçon d'humilité, hein.
Une leçon salutaire, oui. Nous sommes appelés à la fidélité, pas à exiger de Dieu des résultats agréables et victorieux sur le plan terrestre.
Ce qui crée un pont fascinant avec le chapitre 23. Car si l'orgueil et la confiance en soi détruisent des dirigeants individuels, que se passe-t-il quand cet orgueil s'applique à un empire économique mondial? C'est là qu'Ésaïe pointe les villes phéniciennes de Tyr et Sidon.
Tyr et Sidon, c'est en gros le Wall Street et la Silicon Valley de l'Antiquité. Elles détiennent le monopole du commerce maritime en Méditerranée, elles font de Carthage, elles sont surpuissantes.
Et le chapitre décrit une scène où les navires reviennent de Tarsis, l'Espagne, donc le bout du monde à l'époque, avec des cales remplies d'argent. Les marins s'attendent à voir leur métropole invincible, et à la place, ils découvrent un port détruit en ruine. Le marché mondial s'est effondré. Pourquoi ?
Pour, je cite, « souiller l'orgueil pompeux de toute gloire ». Dieu orchestre, ou du moins permet, via la nature prédatrice des empires voisins, la chute de ces superpuissances économiques. Un système qui s'érige en Dieu finit par s'effondrer.
Mais où étaient les leaders spirituels pendant tout ce chaos? Pourquoi personne n'a tiré la sonnette d'alarme?
Pour comprendre, les sources font appel à Michée, un prophète contemporain d'Ésaïe. Il explique que les dirigeants religieux étaient tout aussi corrompus. Les prêtres prophétisaient la paix uniquement contre des pots de vin. Ils étaient fusionnés avec le pouvoir.
D'où l'importance de faire la distinction entre la religion populaire, corrompue, et la véritable religion biblique portée par un petit reste fidèle.
C'est le concept de la Sophia Perennis, la sagesse pérenne, mentionnée par des auteurs comme C.S. Lewis. La vérité subsiste souvent à travers une infime minorité, à contre-courant de la culture dominante.
Si on fait la synthèse de tout ça, l'argent de Tyr, le pragmatisme d'Ézéchias, l'ambition de Shebna, face aux vrais enjeux de l'existence, ça ne vaut rien. Ce sont des murs de gravats. La seule sécurité, c'est la dépendance spirituelle.
Exactement. C'est la seule chose qui reste quand le reste s'effondre.
Et ça m'amène à une pensée provocatrice finale tirée des sources. L'histoire biblique, ce n'est pas une longue ligne droite de progrès continu. C'est un cycle d'une violence extrême.
C'est vrai. On passe des sommets du Sinaï à la chute sanglante des juges, puis on remonte vers l'âge d'or de David pour s'effondrer jusqu'à l'exil avant un nouvel exode.
Un mouvement perpétuel d'amnésie fulgurante, suivi de reconstructions douloureuses. Si l'histoire humaine fonctionne vraiment par ces cycles, la question qu'on peut se poser est vertigineuse. Où se situe notre société actuelle sur cette courbe? Et quand la tempête frappera pour de bon, de quel côté de la vallée de la vision aurons-nous choisi de bâtir notre propre maison?